L'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, traduit en justice le Premier ministre, le ministre de la Formation professionnelle, Métier et Artisanat et celui de la fonction publique. Cette action a été annoncée au cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Kinshasa par le président national de cette structure. L'ANAPECO accuse les trois autorités d'être à la base du conflit de compétences et du désordre qui ont élu domicile dans les établissements techniques. Et pour les avoir attribués illégalement au ministère de la Formation professionnelle, Métier et Artisanat, alors que l'ordonnance présidentielle place les écoles techniques sous l'autorité du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Quelle lecture faire de cette démarche de l'ANAPECO? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois David Steve Diatezwampongi. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes président national et représentant légal de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO. Docteur Léopold Tanganagba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale et de la communication au ministère de la Formation professionnelle, Métier et Artisanat. Monsieur Jean-Marie Ntantoumeï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel BAC, une ASBL d'éducation civique et culturelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, traduit en justice le Premier ministre, le ministre de la Formation professionnelle, Métier et Artisanat et celui de la fonction publique. La décision a été annoncée au cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Kinshasa par le président national de cette structure. David Steve Diatezwampongi accuse les trois autorités d'être à la base du conflit de compétences et du désordre qui ont élu domicile dans les établissements techniques. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
J'ai tenu cette conférence de presse pour annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que l'ANAPECO vient de saisir les instances judiciaires afin que les désordres que nous constatons dans les établissements organisant les sections techniques puissent cesser, parce que c'est le fait du gouvernement. Le ministre, avec ses collaborateurs, ils ont pensé pouvoir récupérer le secrétariat général de l'enseignement technique et professionnel, et ils ont même dénaturé le nom de leur ministère et de leur secrétariat général.
Qui est devenu?
Ministère de l'enseignement technique et professionnel, métier artisanat. Vous voyez ça? Alors que l'ordonnance dit que c'est le ministère de la formation professionnelle, métier artisanat, tout court. Il n'y a pas d'enseignement là-bas. Parce comment? Mais c'est autour de l'argent que les parents apportent à l'école.
Voilà, David Steve Diatezwampongi, président national et représentant légal de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO, c'est vous que l'on vient de suivre. Dites-nous, qu'est-ce qui motive la démarche de l'ANAPECO?
Merci, monsieur le journaliste. Ce qui nous motive, c'est la stabilité dans les écoles. Nous ne voulons pas du désordre que nous observons ces derniers temps. Parce que il y a des personnes qui vont à l'encontre des instructions, qui vont à l'encontre de la Constitution, des ordonnances présidentielles et de la loi sur l'enseignement national. C'est comme ça que nous ne pouvions pas laisser perdurer cet état de choses.
Alors, vous dites que vous ne voulez pas du désordre observé. Dans les détails, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de ceci. Donc, nous rentrons au fond du problème. En 2014, le président de la République avait créé au sein du gouvernement un ministère dénommé ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ce ministère, nous avons participé aux travaux préparatoires de l'avènement de ce ministère. Il y avait des préalables qui devaient être remplis pour que ce ministère fasse son travail correctement. En lieu et place de ces préalables, les gens se sont précipités, notamment les mauvais collaborateurs que s'était choisi le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Il y a un inspecteur général adjoint et certains autres vautours qui, pour eux, avaient estimé que c'était l'occasion d'avoir une promotion rapidement pour devenir inspecteur général. Il y en a qui voulaient devenir directeur chef de service, inspecteur principal provincial, inspecteur chef de pôle, ainsi de suite. Donc, autour de cette activité que nous avons trouvée normale, voilà des vautours qui, eux, voulaient seulement une promotion pour leur carrière. Et donc, ils ont dénaturé le travail qui était attendu par le chef de l'État, si bien qu'à la suite de tout cela, il y a eu décision du chef de l'État de mettre fin à ce ministère de l'enseignement technique et professionnel. En 2016, comme il y a une demande de la part de la société, le chef de l'État a créé un ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat, afin de résoudre le problème que nous avons. Lequel problème? Maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu terminer le cursus scolaire classique. Ils sont tombés en cours de formation et leur nombre ne fait que gonfler. Donc, il fallait justement que l'État puisse résoudre ce problème. C'est comme ça qu'on a créé un ministère de la formation professionnelle pour récupérer tous ces blessés de guerre. Permettez l'expression, on doit les récupérer pour leur donner des formations professionnelles, pratiques, afin d'avoir un métier et être utile pour eux-mêmes et utile à la société. Parce que ce sont des millions maintenant d'enfants qui sont tombés en cours de parcours. Voilà le ministère de la formation professionnelle qui a des attributions bien précises de par l'ordonnance présidentielle du 10 juillet pour fixant les attributions des ministères.
Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? À quel niveau se trouve le problème?
Le problème, c'est que ce ministère, au lieu de faire le travail qui lui a été donné, fait autre chose, vient marcher sur les plates-bandes d'un autre ministère, et pourtant, ce ministère est en droit de faire son travail selon les attributions précises et qui sont dans l'ordonnance présidentielle. Voilà le problème.
Donc le conflit part du problème du non-respect des attributions.
Non-respect des attributions et dénaturation même du nom du ministère en question.
Alors, quelles conséquences cette situation a sur les enfants?
Mais la conséquence, monsieur le journaliste, faites des enquêtes sur terrain. Vous allez voir que dans des écoles organisant les sections techniques, il y a même des bagarres, il y a même des querelles, il y a des disputes, il y a des jours où les enfants ne vont pas à l'école. Ils sont perturbés parce que il y a les policiers qui viennent, il y a les OPJ qui surgissent pour venir régler un différend dans le secteur aussi vital que l'enseignement. C'est une honte. C'est une honte, monsieur le journaliste.
Alors, on l'a suivi à la rentrée scolaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel lancé à la rentrée. Le ministre de la formation professionnelle, métier artisanat aussi lancé à la rentrée scolaire. Au niveau de l'examen d'État, par exemple, comment ça pourrait se passer?
Monsieur le journaliste, c'est là la honte. Hein? C'est là la honte dans ce pays. Et nous sommes en train d'assister à une tentative de dédoublement des structures de l'enseignement national, une tentative de déstructuration de l'architecture du système éducatif dans notre pays parce que on vise l'argent qu'apportent les parents à l'école. Ça, c'est inadmissible. On veut avoir deux inspections du ministère de l'enseignement, deux services de contrôle de paye. C'est inadmissible.
Et donc, en un mot, comme vous le dites, pour vous, tout tourne autour de l'argent.
Oui, merci. Que les parents apportent.
Merci. Docteur Léopold Tanganagba, vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale et de la communication au ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Comment vous avez reçu cette démarche de l'ANAPECO?
Alors, nous sommes un peu surpris parce que l'ANAPECO, c'est donc une association des parents d'élèves de notre République qui devait être comme une église au milieu du village, mais ANAPECO se substitue aujourd'hui à l'EPSP et vous comprenez qu'il s'agit de l'argent. L'ANAPECO veut avoir de l'argent de la part de l'EPSP, mais pour nous, c'est une histoire de la réforme. Cette réforme a commencé en 2011. Le chef de l'État reçoit un second mandat. Il dit que c'est sous le thème de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité, donc il s'agit de la révolution agricole et de la révolution industrielle qui ont fait développer tous les pays du monde. Et alors, il demande qu'on lui fasse un audit de l'enseignement technique et professionnel. Il demande à la CTB et à certains experts de l'EPSP, et ceux-là ont rendu leur papier, et c'était clair que l'enseignement technique et professionnel est totalement désorganisé au sein de l'EPSP. Cet enseignement technique et professionnel n'occupe que 30% des écoles secondaires. Il n'y a pas de laboratoire, pas d'atelier, pas de salle d'informatique, et vous comprenez que le chef de l'État, il veut faire quelque chose de nouveau. Mais avant cela, en 2013, il y a l'UNESCO, parce qu'il s'agit d'abord d'une réforme planétaire. L'UNESCO qui dit que l'enseignement technique et la formation professionnelle sont indissociables. Et l'UNESCO demande à la 38e Assemblée à Paris, en 2013, que pour tous les pays membres et signataires de l'accord de l'UNESCO, qu'on puisse se séparer au niveau des gouvernements, l'enseignement général de l'enseignement technique et professionnel. Ce qui fut fait depuis longtemps dans certains pays d'Afrique. On sait qu'à Brazzaville, il y a un ministère de l'enseignement technique et professionnel. Vous allez au Bénin, dans beaucoup de pays au Nigeria, c'est comme ça. Et alors, il passe le président de la République en vitesse supérieure. En 2014, il est devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, et il fait un discours. Et ça, c'est le discours du chef de l'État qui est donc le discours fondateur. Il dit à peu près ceci. En vue de répondre aux exigences du développement national, un accent accru sera désormais mis sur l'enseignement technique et professionnel, ce qui justifie l'existence d'un ministère dédié à cet enseignement spécifique au sein du gouvernement actuel. Nous sommes là au gouvernement, dans le gouvernement Matata II. Et donc, il scinde l'EPSP qui devient EPSINC d'un côté et puis l'ETP, l'enseignement technique et professionnel de l'autre. J'ai eu la chance d'être conseiller du ministre Jean Nengbangba à l'époque.
Alors, entre 2014 et 2016, certains spécialistes de l'enseignement relèvent certains dysfonctionnements. Ils parlent par exemple du dédoublement des structures déconcentrées, notamment dans les provinces, avec des animateurs choisis au mépris des textes réglementaires, la gestion des écoles dites hybrides, l'organisation des évaluations, notamment l'examen d'État. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je dis ceci. Du moment qu'on accepte la réforme du chef de l'État, parce que c'est ce que l'ANAPECO fait, l'ANAPECO est en train de combattre les chefs de l'État. Donc de combattre la réforme du chef de l'État. Et donc, pour nous, ce sont deux ministères qui ont donc deux compétences, des attributions distinctes. Et au sein de ces attributions, il y a des domaines de collaboration. Il y a quatre domaines de collaboration. Il y a la certification, on collabore avec l'EPES, et il y a les titres, on collabore, il y a les programmes, il y a aussi les épreuves, c'est-à-dire l'examen d'État. Il ne faut pas faire peur aux parents. Il n'y aura qu'un seul examen d'État. L'examen d'État sera donc organisé par un arrêté interministériel du ministre de l'EPES et du ministre de la FPMA. Et c'est prévu par la loi. Il n'y aura qu'un seul, le même jour, et on va proclamer le même jour. Sauf qu'on organise dans les deux camps.
Et donc, pour vous, étant placé dans l'optique de la réforme amorcée par le chef de l'État, il n'y a donc aucun problème?
Il n'y a pas de problème, d'autant plus qu'il y avait quand même, en 2016, on a changé le gouvernement Badibanga, et donc, comme disait mon contradicteur ici, on a vu qu'il y avait un ministère qui s'appelle Formation professionnelle. Mon cher ami, quand il y a changement de gouvernement, on voit où vont les attributions à travers la remise et reprise. Le ministre de l'EPSINC a fait remise et reprise avec le ministre entrant, Gaston Moussemena, avec Madame Kiala qui a pris INC, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Tandis que le ministre Jean Ngbangba de l'ETP avait fait donc remise-reprise avec le nouveau ministre Mikulu de la FPMA. Et donc le ministre Ngbangba a transmis tous les dossiers des écoles techniques et professionnelles à Monsieur donc Mikulu à l'époque. Aujourd'hui c'est Piro Ueka Ukaba qui gère ça. Et quand on dit que on a pris le secrétariat général de l'EPSP, c'est faux.
Vous avez même changé la dénomination du ministre.
Ah ben c'est bien faux. Parce que au niveau de l'EPSP, il y avait une direction de l'ETP. Et alors, le secrétariat général est né au sein du nouveau ministère de l'ETP au mois d'avril 2016. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas changé le nom du ministère. On a seulement changé le nom du secrétariat général. Et pourquoi? C'est encore l'UNESCO. Il fit entendre tout le monde parler de l'ETP.
Merci. Merci, docteur Léopold Tanganagba. Je reviens à vous tout à l'heure. Jean-Marie Ntantoumey, promoteur du Bureau d'Action et d'Éveil Culturel, UNASBL, d'Éducation Civique et Culturelle. Vous avez suivi les deux interlocuteurs. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Je suis promoteur du BAC et je suis aussi ambassadeur et avocat de l'éducation et de la culture.
Ministre voilà honoraire, député honoraire également.
Voilà une trentaine d'années. Et au Parlement, je n'ai fait que défendre les questions d'intérêt culturel et d'éducation. Après avoir entendu mes deux frères, des questions me viennent à l'esprit. Voilà 7 mois que cette divergence persiste. Et au 8e mois, l'ANAPECO s'adresse à la justice. Oh mon Dieu, je me demande, pendant 7 mois, la réforme qui est évoquée, le chef de l'État est vivant. Il est encore chef de l'État. Mais qu'attend-il pour intervenir? Si son texte ou ses textes sont mal interprétés, mais puisqu'il est vivant, il lui revient de refixer les esprits dans l'interprétation de ce texte. Je constate qu'il y a une interprétation intéressée.
De la part de chacune des parties.
Chacune des parties. L'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il y a le mot profession qui vient. Il y a l'enseignement, il y a le ministère de la formation professionnelle. Donc le mot professionnel est dans les deux endroits. Il faut donc que le chef de l'État détermine formation professionnelle. Mais la clarté vient quand on dit formation professionnelle, métier et artisanat. À notre humble avis, nous penserions que ce ministère ne concernerait que les centres spéciaux, les centres spécialisés, les centres sociaux, les foyers sociaux. Il ne pourrait pas, à notre humble avis, concerner l'enseignement secondaire qui donnerait droit à un diplôme d'État. Il concernerait tout ce qui est formation professionnelle, comme école artisanale. Il y avait des écoles de menuiserie, des foyers sociaux. Mais devant cette confusion, nous regrettons que pendant 7 mois, le chef de l'État reste indifférent, laissant ses enfants se quereller, se disputer au détriment de la jeunesse. C'est pourquoi ceci renforce notre idée que depuis plusieurs années, il y a le génocide intellectuel. On est en train de tuer les écoles maternelles, primaires et secondaires, volontairement. On ne voudrait pas qu'il y ait une formation efficiente de nos enfants. Parce que ceux qui gèrent le pays n'ont pas les enfants. Mais qu'on puisse des solutions, plutôt que d'aller au tribunal, encore que le magistrat suprême, c'est le chef de l'État. Le tribunal n'est pas une solution. Nous proposerions que, soit le cadre informel, il y a la MP. Les deux ministres sont membres de la MP. Ça, c'est le cadre informel. Le cadre formel, c'est la présidence de la République.
Alors, Monsieur David Diatezoa, il y a cet auditeur de Mahagui qui posait la question de savoir si l'ANAPECO n'était pas manipulée.
Monsieur le journaliste, ça, c'est mal connaître l'ANAPECO, qui est partenaire de l'État dans le secteur de l'éducation depuis 50 ans. Et donc, nous ne pouvons pas être manipulés, parce que je vous apprends que le Premier ministre, les ministres passeront,
nous, nous serons là, toujours. Et donc, nous ne pouvons pas être manipulés. D'ailleurs, ce n'est pas ce que Mobutu n'a pas pu faire que quelqu'un d'autre fera pour nous manipuler. Ça, jamais de la vie. Donc, je disais ceci que monsieur le conseiller du ministre a dit que nous sommes en train de combattre le chef de l'État. Archi faux. C'est eux qui combattent le chef de l'État parce qu'ils ne veulent pas respecter les termes des attributions fixant les termes des attributions du ministère. Parce que l'ordonnance présidentielle est là, elle a été proposée par le Premier ministre. Et l'ordonnance dit clairement ce que doit faire l'un et l'autre ministre. Et nous, nous avons soutenu l'avènement du ministère de la formation professionnelle, métier artisanat, après l'échec du ministre de l'enseignement technique et professionnel qui s'était mal entouré. Ce sont les mauvais conseillers qu'il a eu qui l'ont induit en erreur. Et nous constatons, quand le conseiller se présente, qu'il était aussi avec l'ancien ministre. Donc, je comprends maintenant pourquoi ça ne marche pas. Alors, parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont dénaturé le fonctionnement du ministère créé par le président de la République, d'abord comme ETP, et qui a été abrogé, et maintenant, formation professionnelle, on veut toujours entraîner le chef de l'État et le ministre dans un mauvais schéma. Ce n'est pas l'UNESCO qui vient nommer les ministres ici, qui vient donner les attributions. C'est le président de la République qui donne les attributions. Et on doit les respecter. On doit respecter les textes. On doit avoir la culture du respect des textes dans ce pays.
Merci. Docteur Léopold Tanganagba, il y a pour vous cette réaction que nous allons suivre qui nous vient de Lubumbashi.
Le Ribassa de Lubumbashi. D'après moi, la demande de la NEPECO est très capitale pour remettre de l'ordre dans ces établissements techniques. À ma connaissance, l'ordonnance présidentielle a la préséance par rapport au décret. Mais pourquoi le président garde un grand silence face à cet imbroglio? Notre premier ministre doit viser l'intérêt général et non l'intérêt privé. Si lui est à la primature, c'est suite à ses bonnes études faites. Il aide aussi aux Congolais et Congolaises de bien faire leurs études en ordre et en toute tranquillité.
Docteur Tanganarba.
Oui, merci beaucoup pour la question qui nous vient de Lubumbashi. Je pense que l'ANAPECO a tort parce que, comme je l'avais dit tantôt, on doit garder raison. L'ANAPECO est inféodé et l'ANAPECO est sous la coupe de l'EPES et aussi de certains dissidents. Il parle des gens qui étaient avec nous, qui sont passés de l'autre côté, qui ont pris de l'argent de la Banque mondiale, qui ont appelé l'ANAPECO à Charques et ils ont donné l'argent à l'ANAPECO pour faire cette démarche. Donc ce sont des gens qui ont une moralité douteuse.
Est-ce que ça ne vous gêne pas que deux ministres d'un même gouvernement puissent s'affronter de cette manière? Est-ce que ce n'est pas un peu gênant?
Bon, moi je pense que depuis le 2 janvier, les deux ministres ne se font plus la guerre. C'est une affaire qui est terminée, comme disait M. Tantoumé, depuis longtemps, depuis le mois de janvier. L'ANAPECO est sorti de son sommeil, de je ne sais pas où, pour venir remuer la plaie. Là où c'était déjà
dans la plaie.
Voilà, les couteaux dans la plaie, là où c'était déjà sec. Je vous dis ceci, le Premier ministre a agi conformément à la Constitution. Article 91, qui dit que c'est le gouvernement, le Premier ministre, qui définit la politique générale du gouvernement. Il y a aussi l'ordonnance 17-024. Avant l'ordonnance qui fixe les attributions, le président de la République a signé l'ordonnance 17-024 qui porte sur l'organisation du gouvernement, les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. L'article 10 de cette ordonnance dit ceci. En cas de conflit de compétences, messieurs les journalistes, l'ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 dit ceci. En ces cas-là, c'est le Premier ministre qui fixe les orientations à suivre par tous les membres du gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. Il a exercé son arbitrage depuis le 2 janvier 2018. Et ce sont des gens comme ceux de l'ANAPECO qui sont insubordonnés, qui ne veulent pas suivre la décision du Premier ministre. Et quand j'écoute M. Tantoumé, j'écoute notre ami de l'ANAPECO, je dis, mais on est où? Dans ce gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe de la formation, de l'éducation non formelle, qui s'occupe des centres, ce sont les affaires sociales, ce n'est pas nous. La formation professionnelle métier artisanat s'occupe de l'enseignement technique et professionnel, c'est-à-dire 3 ans de cycle court, 4 ans de cycle long, et cela se trouve dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, endossée par le gouvernement depuis le mois de janvier 2016. C'est cette stratégie qui a dit qu'au niveau du secondaire, il y aura 2 ministères. Ce n'est pas mon ministre. Les 2 ministres sont en intelligence. Le 25, c'est-à-dire le mardi passé, j'ai assisté à une réunion au cœur de l'EPSP, où le ministre de l'EPSP, lui-même, dans ses discours que je vais vous donner, a dit que il y a 4 ministères. Il dit pour les enseignements primaires et secondaires général, ça c'est lui. Il dit pour les enseignements supérieurs universitaires, Steve Mikai. Et il dit pour l'enseignement technique et formation professionnelle, mon collègue ici présent, Piero Ueka. Et il parle de l'éducation non formelle pour les affaires sociales. Voilà ce qu'on doit retenir, qu'au sein du gouvernement, il y a harmonie. Merci. Des fauteurs de troubles viennent dire n'importe quoi.
Merci, Monsieur Ntantoumé. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani. Lisa de Kisangani.
Lisa Mbaïkia Mwamba de Kisangani à Magopi. La démarche de l'ANAPECO est bonne, mais il ne trouvera pas une solution qu'ils veulent, car la justice en RDC est au service du pouvoir. Je ne sais pas dans quel pays au monde qu'on peut trouver cette cacophonie à part en République démocratique du Congo. 2 ministères se tiraillent de l'attribution et des compétences alors qu'il y a une loi qui est claire à la matière. Mais leur chef, qui est le premier ministre, s'était. Les chefs ont été, cette situation persiste alors qu'une ordonnance présidentielle avait ordonné 1 ministère. Vraiment, je ne sais pas d'où vient ce conflit, si ce n'est pas seulement une manière de les compétences notoires au sommet de l'État.
J'ajoute cette réaction qui nous vient de Bukavu, d'Isaac Pamporiki, qui dit « L'issue de la démarche est connue d'avance. Nul n'ignore que notre justice ne condamne jamais quelqu'un du pouvoir, ni ne blanchit un opposant, pas plus que le Parlement qui est très faible en contrôle du gouvernement. Voilà le 1001e cas qui ternira l'image de l'État en interne comme à l'extérieur du pays. Pauvre RDC. »
Merci beaucoup. Je pense que, au risque de me répéter, il y a un collège juridique à la présidence de la République. Il y a un collège juridique à la primature. Je pense, si le chef de l'État aime les écoles et l'éducation et le Premier ministre, plutôt que de rester pendant sept mois, sans y réfléchir, je trouve ça grave. Étant donné qu'il est le magistrat suprême, plutôt que de donner du travail inutile au juge, il devrait s'y pencher. Il y a aussi une commission socio-culturelle au Parlement qui devrait s'y pencher. Et le président de l'Assemblée, qui est aussi partenaire à ces 2 ministres, j'insiste, il y a plusieurs espaces pour régler cette question, dans l'informel ou le formel. Je voudrais répéter avec insistance, comme le Premier ministre n'est pas en convergence avec l'un des ministres de l'EPSP, il ne peut pas se rendre justice lui-même, il revient au chef de l'État, qui est au-dessus du Premier ministre et du ministre, à intervenir. D'abord, une réunion entre les 3, et puis le Conseil des ministres, que tous les ministres écoutent, examinent. Ils sont quand même assez sages, mais je pense que se laisser aller est laisser, selon notre analyse au bac, de façon volontaire. On se moque de la formation des enfants congolais. On ne veut pas qu'ils soient bien formés. Nous l'avons toujours dit. La preuve est que sur 100 diplômés d'État, il n'y en a pas plus de 20 qui sont aptes. D'où, c'est une manière de faire pourrir la situation que de laisser cette confusion perdurer. Le chef de l'État, il est grand temps qu'il prenne ses responsabilités, parce que c'est lui qui a nommé chacun et l'ordonnance qui est relayée est signée par lui. S'il est mal, si elle est mal interprétée, mais lui qui l'a écrit, il est là. au lieu qu'on puisse interpréter de façon erronée.
Alors, vous avez suivi Dr Léopold Tanganagba et Monsieur David, Dr Léopold affirmait qu'il n'y a pas de problème, il a même brandi certains...
Si, il y a un problème, moi qui suis ça.
Attendez, Monsieur Tantoumé, oui. Monsieur Diatézoa, qui pense qu'il y a un problème, est-ce que selon vous, il y a une guerre froide?
Ici, les gens se battent pour l'argent. Sachez que je suis enseignant à l'EPSP depuis une quarantaine d'années. Le problème, c'est quoi? L'enseignement technique et professionnel est l'enseignement, est la section la plus nourricière du ministère. C'est par là que passe l'argent des expatriés, l'argent de nos partenaires. Ici, la guerre est autour de l'argent. C'est l'argent, chacun veut gérer l'enveloppe qui parvient des partenaires. Vous avez entendu, il a parlé de la Banque mondiale. Il n'y a pas que la Banque mondiale. L'enseignement technique et professionnel, c'est l'enseignement le mieux nourri par des partenaires. Et tout le monde veut gérer cette partie-là. C'est là, c'est la guerre de l'argent, ce n'est pas la guerre de la formation. Ils se moquent tous de la formation de nos enfants. Ce qui leur importe, c'est l'argent. C'est là qu'il y a la guerre réelle. Elle n'est même pas froide, elle est ouverte. Le ministère de la formation professionnelle voudrait aussi organiser les examens d'État. Parce que l'examen d'État est devenu un business. Nous l'avons dit ici lors d'une émission. C'est le fait qu'en fait, comme je l'ai écrit dans ma pièce de théâtre, Tournabuche, l'enseignement est devenu un secteur commercial. Merci. Pour les dirigeants. C'est là le problème et le bac dénonce ce génocide intellectuel qui consiste à marginaliser, à mépriser le problème dont souffrent les enfants congolais.
Merci, Monsieur Ntantoumé. Monsieur David Steve Diatézoa, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Emmanuel Kouyouma, depuis Kisangani, au regard de l'inférence manifestée par l'EPSP face à la manque de terres qualifiées aux écoles techniques, une telle solution devrait être saluée au lieu d'être diabolisée. N'est-ce quoi? Vu l'insatisfaction des résultats fournis par les enseignements techniques au point de la finalité tendue aux élèves, il fallait un regard particulier. Il fallait agir en toute urgence et c'est fait. Somme toute, nul n'ignore le fonctionnisme inhérent aux services étatiques et congolais. Il s'est n'en fait pas exception. Et c'est ça le problème. Il suffit d'un fair play pour qu'il n'y ait plus de problème. Après tout, pourquoi cette agitation s'il travaille pour l'État congolais?
Pourquoi cette agitation de la part de l'ANAPECO si tous les ministères travaillent pour les biens de l'État congolais? David Steve Diatézoa.
Il n'y a pas agitation, mais il y a réaction lorsque nous considérons les méfaits graves qu'on observe dans les écoles où les gens s'empoignent et se battent pour diriger les sections où sont les écoles où sont organisées les sections techniques. Et c'est ainsi que je voudrais rectifier une chose à l'endroit du conseiller du ministre qui a porté une accusation très grave sur notre association qui aurait reçu de l'argent de la Banque mondiale au Shark. Mais c'est grave. Où, quand et quel montant? Et qui a perçu cet argent? Je ne connais même pas l'existence de cet argent-là. Alors, quand il vient en parler, c'est qu'il sait qu'ils sont en train de courir derrière l'argent. Tout ce que nous savons, nous payons beaucoup d'argent pour le fonctionnement des sections techniques dans notre pays. Et ceux qui mettent la main basse sur cet argent, ce sont justement les amis du ministère de la Formation professionnelle qui, sans titre ni qualité, se précipite pour aller prendre cet argent.
Alors, vous l'accusez de courir derrière l'argent. Lui vous accuse de courir derrière l'argent. Finalement, qui court derrière l'argent?
Mais il va nous le prouver. Parce que maintenant, il nous donne l'occasion de l'attaquer en justice. Il nous dira quand, où et quel montant nous avons perçu, nous, de la Banque mondiale et au Shark, qui était là comme témoin. Donc, c'est la première fois que j'entends parler de ces choses-là. Il devra s'en prendre à sa langue. Parce que nous ne sommes pas prêts à gober n'importe quoi, monsieur le journaliste. Nous sommes dans le secteur
de l'enseignement depuis 50 ans. Jamais nous n'avons été pris en faute par l'État, le pouvoir organisateur de l'éducation. Voilà que maintenant, des gens sortis d'on ne sait où, se déclarant professeur,
Monsieur Diatis,
ça, nous ne pouvons pas tolérer ça. Ne pouvons pas tolérer cette insulte grave, être discrédité comme ça.
Monsieur Diatiswa, vous avez répondu, je crois que on s'en tient là, on reste sur les principes. L'émission, elle est pédagogique. Ce qui intéresse les millions des auditeurs qui nous suivent, c'est comprendre c'est quoi le problème et quelles sont les solutions à y apporter. Évitons d'attaquer les personnes, ça ne sert à rien. Et je signale en passant aux auditeurs qui nous suivent que suite à une petite interruption connue à cause d'un problème technique, exceptionnellement, cette émission se termine à 20h10 et juste après, vous pourrez suivre le bulletin d'information. Monsieur David Diatiswa, puisque vous avez la parole, c'est quoi la solution finalement?
Merci. La solution, c'est que comme nous ne pouvons pas nous faire justice et comme nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au Président de la République, nous n'avons toujours pas reçu de suite, nous pensons qu'il y a une institution qui est chargée de dire le droit. C'est comme ça que nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse interpréter justement les dispositions de l'ordonnance présidentielle. Comme ça, ni eux, ni nous, personne ne va se faire justice, mais la Cour constitutionnelle dira le droit. En ce qui concerne le ministre de la fonction publique et celui de la formation professionnelle, c'est le Conseil d'État qui dira le droit. Parce que il faut bien que les choses soient clairement clarifié.
Alors très brièvement, vous allez répondre à cet auditeur Samuel de Kinshasa qui dit une bonne décision et un bon acte fait par l'ANAPECO, mais le mal est que cette démarche aboutira à zéro effet car nous sommes habitués à de tels résultats concernant les autorités du pays. Donc je dirais que l'ANAPECO doit simplement retirer sa plainte car la suite du dossier est bien connue, les résultats seraient nuls de la part de cette organisation. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Nous avons foi aux institutions de la République et que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour servir seulement de paravent. Nous savons que la Cour constitutionnelle est une institution responsable qui dira les droits. Il en est de même du Conseil d'État. Nous avons foi en la justice de notre pays.
Alors, docteur Léopold Tanganagba, il y a Sébastien Ndiaye qui nous écrit de Kananga qui dit « Certes, la démarche de l'ANAPECO est à saluer dans la mesure où elle vient de dénoncer haut et fort ce qu'on qualifierait de guerre froide qui s'observait depuis longtemps entre le ministre de la formation professionnelle et celui de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ce qui, si jamais on ne prend pas des mesures idoines, risque d'avoir des répercussions fâcheuses sur l'éducation des enfants, comme on dit, lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. »
Oui, je remercie l'auditeur, mais j'ai dit seulement que le conflit a été définitivement réglé par le Premier ministre qui, avant de régler ce conflit, a convoqué une commission mixte qui a connu la participation des experts de la présidence de la République, du gouvernement, du secrétariat général du gouvernement, de la fonction publique et des deux ministères EPES et de notre ministère. Et tous ces experts en sont venus à dire ceci. Je réponds en même temps à M. Tantoumeï que le problème ici, c'est l'enseignement technique. À qui appartient l'enseignement technique? Ils ont dit que l'enseignement technique et la formation professionnelle sont indissociables. Et ensuite, quand j'ai lu les attributions de notre ministère, je crois la quatrième, dit que nous devons gérer les réseaux d'écoles, de formation professionnelle et des centres spécialisés. Quand on parle d'école, ça veut dire que il s'agit ici des écoles techniques et professionnelles. Les gens qui lisent nos attributions devront les lire du début à la fin. Pour les PSP, il n'y a qu'une seule attribution qui dit gérer l'enseignement technique et professionnel. On ne peut pas former quelqu'un sans l'enseigner. Et l'enseignement pour former les gens de façon professionnelle, c'est un enseignement technique. Voilà. Donc, pour nous, il est clair que le Premier ministre est dans son droit. Je dis que il y a la Constitution qui lui donne les droits. Il y a aussi l'article 17.024 qui porte organisation du gouvernement qui lui donne ses droits. Et d'ailleurs, avant d'appeler cette commission, il a été voir le chef de l'État qui lui a dit « c'est votre job, c'est votre travail, quand deux ministres ont un conflit de compétences, il ne faut pas revenir chez le président de la République. Nous ne sommes pas une république bananière, nous sommes régis par des textes et des lois qui sont réglementaires.
Est-ce que dans les attributions, docteur Léopold Tanganagba, il n'y aurait pas confusion autour peut-être des définitions de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement professionnel? Est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion à ce niveau-là?
Il n'y a pas de confusion parce que l'enseignement technique et la formation professionnelle, comme je viens de dire, c'est que la formation professionnelle se donne à travers un enseignement. Et cet enseignement est technique. Alors que les humanités générales, l'enseignement qu'on donne là-bas, c'est pas un enseignement technique, c'est un enseignement général. Pour les latins philo, pour la pédagogie, maths physique, et puis pour la biochimie, vous n'avez pas besoin de technique. Ce sont là les trois sections à 9 options qui sont restées à l'EPES, en enseignement primaire et secondaire. À partir des instituts techniques commerciales, sociales, mécaniques, électricité, ça c'est technique, et ça nous revient, et c'est comme partout dans le monde aujourd'hui, c'est le Congo qui est resté en arrière.
Alors, Jean-Marie Ntantoumé, je vous vois demander la parole instamment.
J'aimerais qu'il sache, il y a le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. D'autre part, il y a le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Je pense, traducteur et traducteure, traduire c'est trahir. Le mot professionnel est aux deux ministères. L'adjectif professionnel. Formation professionnelle, enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce qui est la guerre ici, je vous dis, tout le monde le sait, je suis allé PSP depuis plus de 40 ans. Tout ce qui est coopération internationale, l'argent passe par les tout ce qui est enseignement technique, les écoles techniques. C'est là le nerf de la guerre. Ici, nous insistons, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. D'abord avec les deux ministres, ensuite au cours d'un conseil des ministres, on examine, on clarifie.
Mais vous avez quand suivi, docteur Léopold Tanak, oui, va dire quand que la solution a été trouvée, les équivoques ont été levés.
Le premier ministre, vous savez, à l'époque du ministre Matata, on trouvait qu'il prenait parti pour le ministre de l'EPSP, pour Makere Mwango. Aujourd'hui, on dirait que le premier ministre prend parti pour l'autre. Pour couper court, le premier ministre n'a pas le plein pouvoir. Il y a un chef de l'État qui a signé une ordonnance. On n'a qu'à examiner dans la traduction pour voir celui qui a signé l'ordonnance est vivant. C'est lui qui a nommé tout le monde est vivant. Ici, quel est le problème? J'ai l'impression que on est en train de ménager le premier ministre pour certaines raisons politiques. Mais si on doit tuer la formation pour des raisons politiques, parce que mon frère, le premier ministre, a peut-être rendu certains services, disons-le clairement, au pouvoir, parce qu'il leur sert de couverture vis-à-vis de certains opposants, on ne doit pas ici ménager le premier ministre qui a comme premier travail, excusez-moi, d'être premier ministre. Peut-être il ignore certaines choses.
Alors,
je pense que son cabinet est en train de l'induire en erreur.
Alors pour vous,
voilà le malheur quand on a des gens qui n'ont pas d'expérience dans le travail, on leur confie de hautes fonctions.
Alors
voici
vous,
ce qui arrive.
Pour vous, quel pourrait être le mérite de la démarche de l'ANAPECO?
Son mérite est qu'il a crevé l'abcès en exposant le premier en public, en allant à la Cour constitutionnelle, mais nous voudrions, au lieu d'aller à la Cour constitutionnelle, parce que le magistrat suprême, c'est le chef de l'État. Il est vivant, il n'est pas mort. Et c'est lui qui a signé. Son mérite est d'avoir crevé l'abcès. Maintenant, le débat doit se poursuivre. Et nous, en tant que BAC, nous allons réunir les associations qui sont dans le secteur de l'éducation pour examiner et voir exactement que devons nous faire. Le ministère, le pays n'appartient pas à ceux qui signent les ordonnances et les arrêtés.
Merci.
Le pays appartient à nous tous. Nous, en tant que société civile,
et
groupe
en
pression,
guise de pression,
en guise de conclusion, nous voudrions dire que le pays appartient à tout le monde. Nous sommes société civile, groupe de pression. On va réunir les partenaires éducatifs pour examiner cette question et nous en imposer si le chef de l'État reste indifférent. Le pays n'appartient pas à quelqu'un.
Merci.
Il est à nous tous.
Merci. Docteur Léopold Tanganagba, pour vous, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on devrait retenir autour de cette affaire?
Nous devrons retenir que l'affaire est close depuis longtemps. Ça ne sert à rien de réveiller un cadavre et de l'amener à la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre a reçu pouvoir selon la Constitution et l'ordonnance 17-024 que certains n'ont jamais lu ici entre nous ici sous la table, qu'ils aillent lire ces cette ordonnance présidentielle qui est sortie juste avant l'ordonnance fixant les attributions, c'est au Premier ministre et à lui tout seul de régler et d'arbitrer les conflits de compétences. Il l'a fait et il ne demande pas autre chose que l'observance stricte de cette décision par tous. Qu'on s'appelle ANAPECO ou BAC ou je ne sais quelle organisation, il faut respecter l'État, l'ordre établi.
Et donc pour vous, il faut apaiser les parents et les élèves qui nous suivent en ce moment.
Tout à fait, ils doivent être apaisés parce que nous avons un secrétariat général, nous avons des provinces éducationnelles partout dans le pays et une inspection générale qui est légale, il n'y a rien d'illégal.
Merci. David Steve Diatezoampongi, pour vous, c'est quoi la suite de votre démarche en guise de conclusion?
En conclusion, nous sommes en train de constater que le ministre de la Formation professionnelle est mal entouré par des collaborateurs qu'il s'est choisi, comme ce fut le cas avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, où les gens n'ont que des calculs derrière la tête au lieu de servir l'État. Et nous sommes étonnés de voir que des gens qui se disent professeurs ne savent pas lire une ordonnance
présidentielle. J'ai demandé qu'on évite des attaques personnelles. Oui. Merci, messieurs. Cette émission est terminée. C'est donc une affaire à suivre. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.